Vous écoutez France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, il est 11h, le Festival d'Avignon se réveille, nous sommes bien installés dans la cour de l'université pendant une heure, c'est des idées sous les platanes. Deuxième semaine de nos retrouvailles quotidiennes sous les platanes de la Faculté des Sciences d'Avignon. Pour cette heure que nous passons en bordure du festival, vous allez voir mon texte est plein truffé comme ça de métaphores super fines. En bordure, car nous y parlons de théâtre bien souvent, mais on y parle surtout du texte qu'on représente, du texte qu'on lit, qu'on écrit, du texte qu'on traduit, du texte qu'on admire, qui nous élève ou qui nous agace. Alors hier, on a parlé de la mise en forme du texte, demain, on parlera du texte en temps de révolution. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus, donc deuxième métaphore moyenne, en nous intéressant au jardin, au paysage à déchiffrer avec Anne Aliment-Verdillon et Marianne Morvillet, archéologue et historienne d'art. Bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour Marianne Morvillet.
Bonjour.
Bonjour Anne Aliment-Verdillon.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux archéologues des jardins et historiennes d'art. L'une, Marianne Morvillet, vous êtes rattachée au laboratoire Trace à Toulouse, le Mirail. Et vous, Anne Aliment-Verdillon, au CRBA, le Centre de Ressources de Botanique Appliquée à Lyon, dans les environs de Lyon. Alors toutes les deux, vous avez mené les fouilles du jardin pontifical d'Avignon, qui se trouve au pied du mur oriental du Palais des Papes. C'est là où, avant, on mondanisait dans le hin après les spectacles. Alors j'aimerais que pendant l'heure qui vienne, nous parlions des jardins en général, des jardins comme lieu où s'inscrit l'histoire humaine, donc des jardins comme texte à déchiffrer, mais aussi où on parlera un petit peu du jardin tel qu'il apparaît dans les textes, comment il se donne à lire. Mais pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez fabriqué dans ce potager, où je disais que nous mondanisions tranquillement avant que vous décidiez de le fouiller. Pourquoi le fouiller? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? En quoi c'est intéressant cet endroit, Anne Aliment-Verdillon?
Alors, était-ce un potager? Non, pas forcément.
Ah là 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 là, ça y est. Je ne sais pas ce que c'était, ça s'appelait comme ça.
Non, justement, l'intérêt, d'abord, pour préciser une petite chose, c'est que ça s'inscrit dans un chantier de restauration, dans le cadre d'un chantier de restauration. Et ça, c'est une nuance qui est très intéressante, parce qu'on n'est pas dans une archéologie préventive. Après nous, il n'y a pas Attila et le désert. Après nous, il y a toute une réflexion sur le jardin et sur ce qu'il va devenir, ce jardin, puisqu'on va l'ouvrir à la visite. Et donc, de fait, sur tout ce qui est l'essence même de ce jardin-là. Donc, l'archéologie, en ça, ce n'est pas un but, c'est un moyen. C'est-à-dire que ça va être un moyen de définir ce jardin. Et justement, par rapport à tout le fantasme qu'on peut avoir d'un jardin papal, d'un jardin médiéval, de définir au mieux ce que ce jardin était, la réalité vraiment de ce jardin, sa technicité. Et puis, pour transmettre ça aussi aujourd'hui et avoir un discours qui soit cohérent dans le cadre d'une restauration.
Alors, vous vous y êtes prise comment? C'est quoi la méthode pour quand on est archéologue des jardins et qu'on efface comme ça, hein? Parce que, juste pour le dire aux auditeurs, c'était pas grand-chose ce qu'on appelait ce lieu du potager ces dernières années. C'est-à-dire que c'était en gros une pelouse.
Oh, ces dernières années, c'était n'importe quoi.
Une pelouse, quoi. Enfin, je sais pas, oui.
Oui, c'était pas un jardin. C'est une zone qui est très impressionnante parce qu'on voit vraiment le rocher. Donc, on a toute la dimension monumentale du Palais des Papes. On a cette façade très forte, comme ça, très, très lumineuse. Et puis, avec un jardin qui, aujourd'hui, est divisé en deux zones. Une partie haute, qui est la partie, effectivement, qui est englobée dans l'enceinte du Palais des Papes. Et la partie basse, qu'on appelle le verger d'Urbain V, qui, lui, est un passage pour l'Utopia, notamment, et qui est plus un lieu de passage qui s'est aridifié au fil des temps. Et au niveau technique,
alors, comment,
Marianne
comment vous
peut
êtes
peut-être l'évoquer.
Écoutez, en fait, la spécificité de l'archéologie qu'on pratique concrètement repose d'abord sur... en fait, on fait des diagnostics par tranchées. On ne fait pas de fouilles en extension, d'abord parce qu'on n'a pas le temps. On travaille sur un mois ou deux mois, pas plus. Et donc, la spécificité n'est pas une fouille en extension, mais une fouille de stratigraphie, donc en profondeur. Donc, en tranchée, on va lire, en quelque sorte, les stratigraphies, donc les niveaux successifs des terres qui apparaissent. Et c'est donc une archéologie qui est assez aride, puisqu'on ne voit que des terres, essentiellement. Mmh. Il n'y a pas de bâti, on est dans un jardin, donc c'est rarissime qu'on trouve un bâti. Quelquefois, il y en a, bien entendu, mais enfin, c'est rare.
C'est quoi, c'est un banc, une fontaine, un truc comme ça ?
Un bassin.
Ouais.
Et quelle profondeur votre tranchée ?
Ça dépend, en fait, de ce que nous dit la terre. Donc, on peut très bien ne descendre qu'à 1,50 m si les stratigraphies sont très fines et que ben, le jardin, par exemple, a été construit à partir à un niveau d'1,50 m. Ou parfois, si l'histoire est très longue, il peut s'être élevé énormément et on peut descendre à 2 m, 3 m. Enfin, ça dépend vraiment des lieux, en fait, comme tout site archéologique. Ça dépend de l'histoire qui s'est produite sur le temps.
Mmh. Et c'est aussi une des particularités de cette archéologie, c'est qu'elle s'arrête hier. C'est-à-dire qu'en fait, on va partir de la géologie du site, qui est intéressante, hein, sur quel type de terrain on installe ces jardins, est-ce qu'il y a de l'eau, pas de l'eau, sans eau, un jardin ne vit pas. Et on va observer tout le savoir-faire des jardiniers, des architectes qui vont avoir structuré, construit ce jardin. Pour avoir cette vision-là, eh bien, il faut avoir la vision géologique de quoi on part, et puis eh bien, aller jusqu'à hier, parce qu'en définitive, tout ce qu'on a pu faire l'année dernière pour mettre un arrosage automatique, ça va aussi perturber les terres, et on a besoin de le savoir.
Alors qu'est-ce que ça vous a dit, tout ça, tout ce que vous avez, ces tranchées que vous avez creusées, ces analyses des terres, vous en êtes tout, de ce que ça vous a raconté, de ce que c'était que ce jardin
Dépend
au XIVe siècle au début, et puis voilà, son histoire.
Ça dépend si on prend le jardin du haut ou le jardin du bas. C'est-à-dire jardin du haut, peut-être qu'on
On va s'arrêter au jardin du haut, au ce qu'on appelait le potager, donc vous m'avez dit que c'était pas forcément ça, etc., mais enfin voilà.
Oui, parce qu'en fait, la problématique du potager, c'est qu'on sait pas très bien où il était, déjà, et ensuite, visiblement, ce jardin a été extrêmement complexe. Bien plus complexe qu'on aurait pu l'imaginer, d'après ce qu'on a lu, en fait. Et il y a au moins deux jardins. Il y a le jardin autour de la fontaine dite du Griffon, donc, qui est coupé du reste du jardin par la Roma, par ce bâtiment qui tranche, en fait, perpendiculairement au palais, qui coupe, en fait, l'espace en deux. Donc, cet espace autour du Griffon, de la fontaine du Griffon, est très spécifique. On a réussi à le lire facilement, par rapport à d'autres choses, assez facilement. Il est stable, en fait, dans le temps, en tout cas pour le 14e siècle, donc l'évolution de tous les papes qui sont passés à Avignon.
Et ça, c'était le jardin des papes, c'est là où ils se reposaient, c'était là, dans
Oui, visiblement, c'est un lieu clos et plutôt un jardin privatif, on va dire, pour le pape. Bon, alors c'est relié aux circulations du palais, etc. C'est un peu compliqué parce qu'il faut relier le jardin au bâtiment. Donc ça, c'est toute la complexité, en fait. C'est pour ça que l'archéologie n'est pas non plus... Elle ne s'arrête pas à la lecture de la terre. On est obligé de lire avec le bâtiment. Donc ça demande une compréhension du bâtiment à certaines époques.
Bien sûr, ouais.
Sachant que le palais aussi a évolué énormément.
Là, il a été une caserne, il a été... Enfin, bon,
voilà. Ouais. Après, il y a des niveaux stratifiés au-delà du XIVe siècle qui sont vraiment très, très différents. Et puis l'autre partie du jardin...
Et l'autre partie est beaucoup plus complexe. Alors, on reste toujours sur le jardin haut. Mmh. Et il y a une chose qui est amusante parce qu'en définitive, c'est des données dont on ne se rend plus compte parce qu'on a cette espèce de fantasme un peu du palais des papes, comme ça, de cette masse énorme. Et on imagine forcément qu'associé à ce jardin, à ce palais, il y avait un jardin assez extraordinaire. Alors, c'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a sans doute des zones, effectivement, qui sont très structurées dès le départ et dont on retrouve les traces de manière très précise. Avec des choses assez amusantes. Par exemple, on sait dans les textes qu'on va prélever des terres de bord de Rhône pour reconstituer des gazons. Alors, on prend ces terres, comme aujourd'hui les plaques qu'on met dans les stades de foot, c'est un peu le même principe. Et donc, on prend ces terres. Ouais. Et alors, la technique qui est utilisée, c'est qu'ils retournent la plaque de façon à ce que le gazon repousse par en dessous et fasse quelque chose d'assez rare. Ah. On enlève les mauvaises herbes comme ça assez facilement.
Ah, c'est technique.
C'est technique. Ça, c'est des choses qu'on retrouve et qu'on voit. On les voit très, très bien. Et on a appelé ça les terres à gazon.
Ouais.
Ça, donc, dans le jardin dit de la Roma ou du Griffon, c'est quelque chose qu'on voit très bien. Et puis, le jardin qui est d'autre côté, qui est plutôt dit Clément VI, voilà. Eh bien, c'est un jardin qui, lui, nous, on l'a comparé à ce film que vous connaissez, qui s'appelle Muséo, Musée Bas. Il y en a un peu partout. Eh bien, nous, on l'a appelé...
C'est pas un bon film, d'ailleurs.
Après, on aime, on n'aime pas.
On ne
reviendra pas dessus.
Ouais.
Ce qui est intéressant, c'est de montrer cette disparité entre la réalité idéale du jardin, enfin, l'image idéale du jardin, et la réalité. Et la réalité, elle montre un jardin qui est en fait dépendant du chantier. Ce qu'on oublie, c'est que le Palais des Papes, pendant 70 ans, c'est un immense chantier.
Alors dépendant, dans quelle mesure il est dépendant ?
Dépendant dans la mesure où, quand vous construisez une tour, eh bien, c'est pas très compatible avec la présence d'un jardin. Donc, il faut des échafaudages, il faut des chariots de pierre, il faut des tailleurs de pierre. Tous ces gens-là, sur un beau gazon, même venu des bords du Rhône, ça ne marche pas. Et ce dont on se rend compte sur la fouille, c'est qu'on a un jardin qui d'abord n'est pas plan, il est en terrasse, et que c'est plusieurs petites terrasses qui s'organisent, sans doute probablement en fonction des chantiers. Et ces terrasses se déplacent pour garder des petits bouts de verdure à certains endroits, là où on monte des échafaudages, où on passe des seaux, où il y a du mortier, etc. Et dans les textes, on a régulièrement des citations qui nous disent « pour refaire le jardin ». Hop, on a demandé à tant de personnes d'aller nettoyer, ça a pris tant de jours, etc. Donc nous, le but du jeu, c'est de coller cette réalité des textes qui sont des textes administratifs au XIVe avec ce qu'on voit sur le terrain. Et dans cette partie Clément VI, on est vraiment sur une espèce de mosaïque de micro-chantiers qui se mettent en place entre des petits jardins. On est assez loin de l'image médiévale, idéale du paradis sur Terre.
Mais est-ce que vous avez, ben ça on reviendra à la question du paradis évidemment, mais est-ce que vous avez idée de la végétation qui s'y trouvait
D'après la comptabilité, c'est-à-dire qu'on
c'est la comptabilité qui vous donne l'idée de la végétation.
Oui, les textes essentiellement, on n'a pas de description du jardin.
Ah, d'accord.
Donc, de toutes les façons, c'est l'archéologie qui va pallier cette absence de description visuelle, en tout cas, il n'y en a pas, de description du jardin, et pour cause, puisque sans doute, il n'existait quasiment pas, puisque Anne vient de le dire, c'était en partie, et quasiment tout le temps, des parties de chantier, en fait. En revanche, il y a la comptabilité. Et donc la comptabilité nous dit un certain nombre de choses, justement, les jours de travail des ouvriers, les achats de plantes.
Ah oui, d'accord. Donc on sait quelles plantes il peut y avoir par les achats qui ont été faits.
On sait les plantes qui ont été achetées, mais on ne sait pas où elles ont été posées.
D'accord. Voilà. Donc, et ça, on ne retrouve pas de traces, je ne sais pas. C'est impossible, 700 ans après, trouver des traces. Il y avait un pommier, des melons.
Parfois.
Il y a le grand mythe des pollens. Ce qu'on dit à chaque fois, c'est des questions qu'on nous pose en disant « et les pollens ?» Alors les pollens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que ça soit conservé dans des conditions très particulières pour qu'on puisse les observer. Il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène, il faut qu'il n'y ait jamais eu de bouleversement de terre. Un pollen, c'est quelque chose de très fragile. Et donc, ce n'est pas toujours une évidence de définir quelque chose, enfin de trouver des pollens, déjà, dans un premier temps. Et puis, nous sommes dans la vallée du Rhône. Si, par miracle, je trouvais une zone dans laquelle je pouvais éventuellement trouver des pollens, qu'est-ce que me diraient ces pollens-là ?
Parce que ils me donneraient une
idée complète
vents,
de ce qu'est la vallée du Rhône au XIVe siècle. Est-ce que c'est ça qui va me permettre de reconstituer un jardin ? Alors, par contre, on s'amuse un peu.
Ah, vous amusez.
On s'amuse, on s'amuse beaucoup.
Racontez-nous comment un archéologue des jardins s'amuse.
Alors, un archéologue des jardins s'amuse parce que, par exemple, sur ce jardin-là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez votre petit sachet de graines dans une jardinerie, on vous marque dessus, attention à utiliser avant les 2 ans qui viennent, sinon c'est foutu la graine. Bon, on sait très bien que les égyptologues ont fait repousser des blés d'il y a 2000, 4000 ans à l'intérieur qu'on trouvait dans des très bons espaces de conservation et qu'on peut faire repousser ces graines-là. Nous, on avait fait des essais à Lyon, notamment au musée Gadagne, en laissant les tranchées ouvertes. On avait la possibilité de laisser les tranchées ouvertes pour voir ce que les terres donnaient. Et alors, c'est très drôle parce que musée Gadagne, qui est un jardin du 16e, on a vu réapparaître une collection complète de pavots à opium.
Ah oui, mais ça on sait, j'ai des textes de Rabelais.
Pas du tout.
Ah bon ? Mais Rabelais, il ne parle pas du pavot ?
Oui, mais est-ce que pour autant c'était quelque chose qui était dans le jardin ? Ça, on ne le savait pas.
Ah oui, d'accord.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que ce pavot, il est interdit depuis le 19e siècle dans les jardins. Oui, pour cause. Hein. C'était bien pour les tisanes du soir, mais c'était quand même un peu délicat. Et donc, ce pavot, il a été supprimé des collections françaises botaniques. Donc, nous, on a une espèce de période où on se dit, c'est forcément avant le 19e que ces graines-là ont été posées. Donc, elles avaient déjà une centaine d'années d'existence. Et au Palais des Papes, on a fait 2 systèmes. Le premier, c'est de prélever des terres.
On a vu énormément de pavots et on s'est dit, ça y est, les papes, en fait, étaient complètement perchés.
Eh bien, c'est pas si faux que ça, parce qu'en fait, quand on regarde dans les contes d'apothicaire des papes...
En fait, on va comprendre l'essence de la religion.
Non, mais on voit qu'effectivement, les papes qui succèdent sont des gens qui sont assez malades ou assez âgés, et qu'il y a des médecines... Enfin, il pourrait très bien y avoir une possibilité pour que le catalogue des plantes du jardin ait tenu compte des problèmes de santé des papes.
Comme en Californie, finalement.
Ben oui, si vous dites.
C'est ça, autorisation de drogue pour un
apparat. Peut-être bien, oui. Je ne sais
alors,
pas.
Alors, si on essaie de... Parce que c'est une question qui apparaît d'une évidence totale quand on parle d'un jardin. Bon, voilà, tout le monde a une image mentale de ce que c'est qu'un jardin. Mais en fait, il me semble que ce n'est pas si clair que ça, ce que c'est qu'un jardin. Comment définir ce que c'est qu'un jardin ? Est-ce que c'est forcément un espace clos ? Est-ce que c'est forcément un espace de végétation ? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin dans votre... Vous êtes historienne des jardins, archéologue des jardins. Vous êtes historienne et archéologue de quoi ?
Bah, ça dépend des civilisations.
Ah, bonne réponse. Donc, en quoi ça dépend des civilisations ?
Et si on réduit à l'Occident, ça dépend des époques.
Alors d'accord. Alors précisez un petit peu, mais si vous, on peut pas faire évidemment une catégorisation ultra précise de ça, mais en gros, comment ça change la définition de ce que c'est qu'un jardin ?
C'est une question. Moi, je pense que, d'abord, il y a une problématique de dimension. Si le jardin est accolé à la maison ou est en dehors. Comment est vu le jardin de manière culturelle ? À quoi sert un jardin ? Donc, vous avez des réponses qui sont extrêmement variées au cours du temps.
Alors, vous, par exemple, vous dites que vous êtes archéologue des jardins. Alors, donc, ça commence quand ? À partir de quand terrain, votre champ existe-t-il ?
Notre champ, il existe depuis tout temps. Ce qu'on peut entendre par jardin aussi, c'est une nature maîtrisée, déjà.
D'accord.
Une nature maîtrisée, justement, il y a effectivement des paliers. Est-ce qu'un champ est une nature maîtrisée ? D'une certaine manière, oui. Est-ce que ce champ, après, acquiert une esthétique ? Est-ce que si on met des rosiers autour du champ, là, on part sur quelque chose qui a déjà une autre définition ? Et puis, la progression, elle se fait après sur la part technique. C'est-à-dire qu'un jardin, contrairement à ce qu'on pense, dans les parties anciennes, en tout cas, enfin dans les périodes plus anciennes, c'est un lieu qui est complètement structuré, et pas seulement en hauteur, enfin pas seulement au niveau superficiel, mais aussi au niveau profond. Et c'est ce que cette archéologie a permis de mettre au jour depuis une vingtaine d'années.
Comment ça va être structuré en profondeur ?
Alors, par exemple, on va prendre Valry, dans Lyon. Valry, c'est un château du XVIe qui est construit par un familier d'Henri II. Et il reprend une structure médiévale qu'il met en hauteur, donc il va le faire son château en hauteur. Et contrairement aux usages du temps, qui veut que le jardin soit associé au château, eh bien, il va construire le jardin en bas, dans une vallée, et qui est une vallée qui est parcourue par un petit cours d'eau. On se dit, comment installer un jardin dans un cours d'eau ? Eh bien, en fait, la fouille a permis de démontrer que lorsque le jardin a été créé, toutes les terres qui étaient au niveau supérieur de cette vallée ont été enlevées sur 2 hectares. Vous imaginez le travail ? Sur 2 hectares, on enlève les terres, on structure les argiles qu'on trouve en profondeur de façon à ce que les nappes phréatiques qui vont arriver par la suite, l'eau, soient guidées à l'intérieur du jardin, évacué à certains moments, guidé à certains autres, et ensuite seulement on remet la terre et on donne au jardin sa forme esthétique, enfin son esthétique. Ce qui fait que, contrairement à l'image qu'on a de ce jardin superficiel et éphémère, eh bien la fouille permet de comprendre qu'en définitive ce sont des structures pérennes et qu'aujourd'hui, si on voulait reprendre le jardin de Valry, on aurait à refaire le plan du XVIe qu'on connaît bien. Et qu'en dessous, eh bien, il y aurait juste à ouvrir une petite vanne de moulin pour être sûr qu'il soit arrosé en permanence, sans avoir besoin d'arrosage automatique, de pompe, de choses comme ça. Toute cette gestion de l'eau, cette artificialité du terrain, a été démontrée par l'archéologie. Et ça a été un assez grand bouleversement, parce qu'effectivement, c'était dur jusqu'à présent de dire, mais qu'est-ce que c'est un jardin ? Est-ce que c'est esthétique ? Est-ce que c'est structuré ? Est-ce que c'est les plantes ? Est-ce que c'est... Tout ça n'était pas très clair. Le fait qu'on identifie les sous-sols et qu'on dise « mais en fait, c'est quelque chose d'aussi complexe qu'une architecture », eh bien là, c'est une autre approche.
Et alors, ces premières complexités architecturales, on les trouve où dans notre territoire à nous ? C'est-à-dire que à quelle époque c'est quoi ? C'est les Romains ? C'est avant encore ?
Alors, il est évident que chez les Romains, on a sans doute ce genre de choses-là. On n'a pas encore de fouilles, de recherches suffisamment approfondies sur ce côté-là pour savoir. Si on part, on fait des grands bonds dans le temps comme ça, on se dit tout simplement une motte castrale, c'est-à-dire un endroit sur lequel on va poser les premiers donjons, l'ancêtre du château fort. Eh bien, ces mottes-là ne sont pas faites au hasard. Elles sont faites par art ou par nature. Par nature, on les pose sur un bout de rocher. Par art, ça veut dire qu'on est capable de superposer des terres et qu'elles ne se cassent pas la figure. Ça veut dire qu'on en connaît la nature, ça veut dire qu'on en connaît les capacités et les propriétés. Pline, en son temps, a déjà cité les propriétés terrestres, le limon, les argiles, le sable, il connaissait déjà tout ça. Puis après, si on fait des grands bonds, là, on est dans des généralités
kangourous. Oui, on a une heure.
On peut partir sur les cisterciens, on sait tous, cet art qu'ont les cisterciens, de récupérer des sols arides, de transformer des vallées complètement sèches en des zones complètement paradisiaques. Et ben, tout ce savoir, quelque part, il est induit. On l'a perdu avec le 19e siècle, l'exode, enfin un lapsus, l'exode rural, le fait qu'on ait perdu cette technicité des terres. Moi, je cite souvent, alors on m'en voudra, mais le Stade de France, Saint-Denis. Ce stade a été construit donc pour la Coupe du Monde. On n'est pas si loin que ça du truc. Hein. Je me raccroche. Et bien, ce stade est installé dans la plaine de Saint-Denis, qui est une plaine très polluée. Il y a beaucoup d'eau, l'eau est polluée, etc.
Ancienne industrie chimique dans, tout le coin. Hein.
Donc, quand le chantier structurel a été fait, eh bien, on a vacciné les personnes, les ouvriers qui travaillaient dessus. Il y avait des contingences sanitaires assez énormes par rapport justement à la nappe phréatique, à haute terre. Et donc, pendant toute la construction de la structure même, du béton, eh bien, il y a eu des choses qui ont été faites de manière très, très précise pour préserver les gens de cette pollution. Et puis est arrivée la pose du gazon. Alors on a dépensé 1 million d'euros pour aller chercher du beau gazon en plaque. Mmh. Tous les élus ont posé sur leur truc de gazon comme ça.
Voilà. Il a crevé comme ça ?
Le gazon, au bout de 10 jours, il était mort. Parce que la nappe phréatique était remontée, elle était polluée de fait. Et ça, malgré toute la technicité du bâtiment, on n'y avait pas pensé. Parce qu'effectivement, on s'imagine et on a encore cette vision, on a hélas maintenant cette vision très superficielle, on dit bon voilà. Donc qu'est-ce qui a été fait ? Eh bien, on a enlevé toute la, on a recreusé la pelouse, on a fait une chape en béton dessous, et aujourd'hui, la pelouse du Stade de France, c'est un bac Riviera. Voilà.
Un énorme bac Riviera.
Un énorme bac Riviera, et comme ça, on gère la terre, etc. Et donc, eh bien, ces problématiques-là, elles étaient présentes aussi dans des temps beaucoup plus anciens, et il y avait moyen de les gérer. Et ça, on voit cette technicité-là grâce aux fouilles.
Alors, toutes les deux, chaque jour, Véronique Lamandour, qui réalise l'émission, fait un petit montage sonore qui lui évoque, qui est fabriqué parce que lui évoque le sujet, les gens qui sont invités. Alors voilà pour toutes les deux ce que Véronique Lamandour a trouvé aujourd'hui. Différents jardins, des jardins d'endroits différents, végétation différente, faune différente aussi, dans différents endroits du monde. À quoi servent les jardins ? Marianne Mandier, question aussi bête que la question de savoir ce que c'est qu'un jardin, à quoi ça sert un jardin ? Qu'est-ce que ça montre ?
Alors, ça peut montrer quelque chose et ça peut servir à quelque chose. Ça peut servir, on vous avait parlé de potager au départ, donc ça peut être très utilitaire. Au sens où on va faire pousser des plantes qui vont servir pour la nourriture, tout simplement. Ça peut être un lieu de repos, de délassement, un lieu de réflexion. Je crois que ça, ça a été montré suffisamment et depuis l'Antiquité. Hein, on se promène dans les jardins pour réfléchir et pour discuter, déjà. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On peut aussi y jouer, on peut... Voilà, donc les fonctions du jardin sont multiples et je crois que c'est aussi en fonction de ce qu'on y projette selon les périodes de l'histoire. C'est vrai que c'est un peu difficile de répondre directement à cette
question. Oui, mais si, c'est ça.
Il y a une chose que la technicité permet d'identifier, en tout cas, dans les jardins royaux, princiers, des jardins comme ça un peu grandiloquents, c'est que c'est surtout aussi une démonstration de pouvoir. Parce que lorsque l'on a structuré un jardin, regardez le palais des papes, vous voyez que cette façade, elle est posée sur la roche. Pour monter un jardin, il a fallu monter toute une terrasse, amener des terres, tout ça, c'est quelque chose qui va coûter de l'argent. Et qui surtout met l'homme à l'égal de Dieu d'une certaine manière, puisqu'il va restructurer la nature. Donc, en tant que créateur de nature lui-même, il a une vocation. Le jardin, moi je dis souvent, c'est un faire-valoir aussi. Quand on voit sur des périodes comme au XVIe siècle, le jardin est fait pour être vu des salons. On va montrer que l'on est capable de modifier la nature. Le jardin est une démonstration de pouvoir.
Donc tout jardin, d'une certaine manière, dit la manière dont se positionne l'homme face à la nature.
Sur certains types de jardins, en tout cas, oui. Il est clair, si on parle du jardin médiéval, que le jardin à l'extérieur des lys de la ville, qui est le petit bout de jardin qu'on va exploiter pour l'économie familiale, ce jardin-là pourra avoir une esthétique. Il va mélanger peut-être les fleurs, le potager, etc. Le jardin à l'intérieur de la ville a encore une autre problématique, puisqu'on va mettre de la terre et de l'eau à l'intérieur d'une architecture. Donc ce jardin-là va avoir certaines particularités. C'est un lieu où on peut recevoir aussi, et donc peut-être une esthétique. C'est un lieu où on va introduire des plantes peut-être un peu extraordinaires. C'est aussi une manière de montrer son pouvoir. On sait que dans le jardin du pape, il y avait des melons. Alors c'est sans doute plus...
Comment on sait qu'il y avait des melons ? Grâce au texte, d'accord.
Alors, la traduction de mélo, c'est plus sans doute les calebasses africaines. C'est plus ces espèces de courges comme ça. C'est pas le melon tel qu'on va le connaître après au XVIe siècle, introduit par Catherine de Médicis. C'est aussi le premier lieu en France, par exemple, le Palais des Papes, où il y a des orangers. Ah. Et donc, ça, c'est aussi une démonstration de pouvoir.
Ils viennent d'où, ces orangers ?
Ils viennent essentiellement de Saragosse et peut-être aussi de Sicile. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce voyage des plantes. Il y a le fait qu'on puisse modifier le terrain, déjà, montre un pouvoir sur la nature. Et puis, le fait que l'on soit capable d'aller chercher à l'autre bout du continent des plantes qui ne sont pas acclimatées par essence déjà au jardin, ça montre qu'on a la capacité de pouvoir faire vivre ces plantes, que le jardinier soit là avec la capacité de les entretenir et de montrer, c'était assez extraordinaire. La tomate n'est introduite en France qu'au XVIe siècle. Nous, elle nous paraît très commune, mais avant, c'était quelque chose d'assez extraordinaire.
Et Marianne Morvillet, c'est quoi, ça date de quand, les premières théorisations de ce que c'est qu'un jardin ?
Bon, je pense que c'est assez récent. Niveau conceptuel, je pense que c'est au XXe siècle, pas avant.
Ah ouais.
En tout cas, pour théoriser. Au 19e, je ne pense pas, enfin ça je crois que Anne le saura mieux que moi, mais je ne pense pas qu'on ait réfléchi au concept. On a réfléchi aux différents types de jardins qui pouvaient exister, à l'évolution du jardin de manière concrète, mais l'idée du jardin est plus tardive.
Ah oui, c'est étrange.
Il y a une chose qui est très surprenante, mais c'est pour ça que le 19e siècle a un côté très surprenant aussi, c'est que quand Mérimée, par exemple, inscrit les monuments historiques, crée le corps des monuments historiques, monument, est-ce qu'un monument c'est un jardin ? Il oublie complètement le jardin.
Et justement, depuis le début, vous dites, voilà, vous introduisez une sorte de barrière au moment du 19e siècle.
Oui, il y a vraiment une coupure.
Et je ne comprends pas très bien en quoi le 19e siècle est une coupure dans une histoire des jardins.
Je pense qu'il y a une coupure technologique d'abord, parce que effectivement, quand on a regardé la construction du métro de Paris, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On lance des caissons dans la Seine, on arrive à creuser des choses en profondeur. C'est des choses qui, humainement, ne pourraient pas avoir été faites si, technologiquement parlant, en termes d'outils, d'avoir des grues suffisamment fortes, d'avoir pu fondre des métaux de manière suffisamment précise pour obtenir des outils qui soient très tranchants. Tout ça, c'est des choses qui pouvaient être faites sous l'Ancien Régime, mais qui étaient faites... plus d'abord qui demandait des crédits énormes et puis qui était faite sur des longueurs de temps beaucoup plus grandes. Si le métro parisien avait dû exister au 18e, il aurait été là. Au 19e, on a des capacités industrielles beaucoup plus grandes et beaucoup plus fortes qu'avant. Et ces capacités industrielles, elles ont un double effet, à savoir, technologiquement parlant, on a effectivement des outils beaucoup plus précis, beaucoup plus gros, des pelles mécaniques, des choses comme ça. Et puis tout ça demande aussi des gens, des personnes. Donc il y a un exode rural qui fait que l'industrialisation de la France demandant à ce qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, les gens quittent la terre et donc perdent leur mémoire. Et puis, il y a une chose qui est essentielle, qu'on a oubliée, c'est la Révolution française. On va reprendre Valéry. Le jardinier de Valéry, du 16e au 18e, il y a des corps de jardiniers qui se transmettent le savoir du jardin et qui savent que pour que la nappe phréatique en profondeur dans le jardin soit toujours la bonne pour que le jardin soit arrosé par capillarité, eh bien, ces jardiniers-là se transmettent le savoir. À partir de la Révolution, le jardin est confisqué, acheté par des personnes qui n'en ont aucune idée, enfin qui n'ont aucune idée de ce qu'est la structure profonde du site. Eh bien, ce jardin commence à dégénérer puisque il y en a un qui a récupéré le moulin au-dessus, donc on peut plus gérer l'eau. L'autre va récupérer une partie du jardin pour faire un potager, un troisième pour faire un autre type de jardin, et la mémoire se perd.
Mais est-ce que ça s'accompagne pas aussi d'une volonté, par exemple, quitter la nature, quitter la campagne pour aller dans des endroits plus urbains ? Est-ce que ça s'accompagne pas aussi de la volonté de créer son propre petit espace naturel, alors que
le 19e voit la naissance des grands parcs, hein, à Lyon, le parc de la Tête d'Or, parce qu'effectivement les gens ont besoin de nature. Mais n'oublions pas qu'à Paris, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il n'y a que deux jardins qui sont accessibles aux Parisiens. Ce sont les Tuileries et ponctuellement le Palais Royal quand il est ouvert, mais pas toujours. Sinon, il faut franchir les barrières, aller à l'extérieur pour retrouver la nature. Mais à l'intérieur de la ville même, il y a très peu d'espace vert au départ. On en crée parce qu'en définitive, les gens sont malheureux, qu'ils ont besoin de cette intimité avec la nature. Et donc, on va en recréer sous forme de très grands espaces.
Je crois que, en tout cas pour Paris, Napoléon III a voulu, en utilisant en fait ce qui était fait en Angleterre, puisque c'était un grand anglophone, a voulu justement restituer aux Parisiens des espaces de nature. Et le bois de Boulogne et le bois de Vincennes ont été construits dans cette idée-là, en fait. Ce sont des constructions totales à chaque bout de Paris, à l'est et à l'ouest, pour donner des poumons verts à la capitale, mais c'est une construction de Napoléon III. Donc on est quand même assez tard, on est après dans la deuxième moitié du siècle.
Mais est-ce que la nature est vraiment un problème dans le jardin ? J'ai vraiment une question. Parce que c'est tellement construit qu'on pourrait considérer que c'est d'autres choses qui l'emportent. Enfin, est-ce que les fleurs sont encore des fleurs quand elles sont là uniquement pour leur couleur ? Il y a une instrumentalisation totale de la nature pour d'autres visées sans doute que la simple plaisir d'être.
Non, c'est des visées conjointes, je crois qu'on ne peut pas tellement détailler les deux. Le fait qu'on puisse avoir une très belle allée de dahlia, qui était une plante pas du tout connue, eh bien effectivement ça va donner une certaine fierté aux jardiniers ou aux propriétaires du jardin, mais à la rigueur on touche à l'intime, cette part de jardin c'est vraiment, elle est inscrite en nous, donc que certains aient pu vivre le jardin de manière que glorieuse, oui sans doute, mais il n'en reste pas moins que la nature est inscrite en l'homme et que c'est un appel.
Et le jardin dit le propriétaire. De même que quand vous entrez dans une maison, dans un salon, le salon dit le propriétaire, le jardin dit le propriétaire du lieu. Donc chaque jardin va être différent parce que chaque propriétaire va inscrire ce qu'il souhaite et ses projections mentales aussi du jardin.
Et bien justement, projections mentales, parlons-en, puisque on fouille chaque jour, vous fouillez dans les jardins, nous on fouille dans les bases de données, quand on tape jardin, je crois, c'est dans la base de données, je crois que c'est dans la base de données de Radio France, des musiques de Radio France, voilà ce qui sort.
Au-dessus du jardin, ton expression, ton chagrin. Tu as lâché ma main. Comme si de rien n'était de l'été. C'est la fin, les fleurs ont perdu leur parfum.
Dépression au-dessus du jardin, Serge Gainsbourg, oui, c'est pas la chanson la plus gay pour évoquer, pour évoquer un jardin. Mais puisque de vous-même, Marianne Morvier, vous avez utilisé à plusieurs reprises le mot lire quand vous parliez du sol tout à l'heure. Oui. Vous disiez, nous en archéologie, voilà,
c'est une forme de lecture.
On lit. On lit le sol des jardins, mais aussi le jardin tel qu'il se lit, voilà, tout ce qui est le jardin dans le texte. Et ça, c'est intéressant aussi parce que de vous-même, vous avez beaucoup parlé des textes, notamment pour le Jardin des Papes, qui évoquaient les jardins par les achats, etc. Bon. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, pour le moment.
et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pléthore de textes qui évoquent les jardins. Est-ce que d'abord, avant d'en voir quelques exemples parmi la multitude, est-ce qu'ils vous sont utiles, à vous, historienne des jardins, archéologue des jardins, les textes qui parlent de jardins ? Ou est-ce qu'ils sont tellement loin que ça n'a aucun intérêt pour vous ?
Alors, déjà, il y a une chose qui est... Là encore, on revient sur l'archéologie comme étant un moyen et non un but. Et donc, on n'est pas cantonné à... On n'a pas une truelle greffée à la main. Il y a vraiment
une vision...
C'est
pour ça que je vous pose cette question. Je sais que vous êtes des gens qui lisaient, par exemple.
On lit un peu. On lit beaucoup. L'idée est de pouvoir fournir aux gens qui vont restaurer le jardin toutes les données possibles et imaginables pour que cette lecture soit la plus réaliste possible. Et donc, moi, on a pour coutume, en fait, dans ces études-là, de remettre à plat l'ensemble des textes, l'ensemble de l'architecture, l'ensemble des données archéologiques. On les met au même plan. Et moi, je tiens beaucoup à cette espèce de plan linéaire parce que ça enlève l'historiographie, ça enlève une certaine forme de sensibilité. Et on prend le document tel qu'il est. Aussi bien au niveau du jardin que au niveau de la littérature, que au niveau de l'architecture. Toutes ces lectures-là doivent être conjointes pour essayer de se remettre dans la peau du jardinier. Et donc le texte en soi, il est très important, mais je vais prendre en considération de manière aussi forte un conte apostolique du XIVe siècle qu'une visite d'Avignon du XVIIIe qui me dira juste que le jardin est en friche. Voilà, j'aurais peut-être juste cet élément-là. Mais il sera tout aussi important que ce conte apostolique. Il n'y a donc pas de choix ni de tri qui sont faits dans les textes. Tous les textes sont pris à leur valeur d'information, mais surtout sont mis sur le même plan pour pouvoir avoir une juste idée du jardin.
Alors vous avez chacune apporté un texte, moi j'en avais apporté un aussi, je ne sais pas si on aura le temps. Marianne Morvier, peut-être le texte que vous avez apporté, c'est un extrait de Pétrarque ?
Alors c'est une lettre de Pétrarque parce qu'on est au XIVe siècle, donc ça correspond bien pour le palais. Voilà. Alors ça ne parle pas du palais des papes, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de description. En revanche, Pétrarque, dans ses lettres, et en particulier ici, c'est une lettre à un de ses amis qui s'appelle Guillaume de Pastringo, parle de son jardin à Fontaine de Vaucluse, parce que vous savez que Pétrarque s'est retiré à une période à Fontaine de Vaucluse, parce qu'il ne supportait pas la cour des papes. Il détestait la cour des papes ici, alors qu'il était obligé d'y être parce qu'il servait un cardinal, le cardinal Colonna, mais il détestait Avignon. Donc il se retirait à Fontaine de Vaucluse, et c'est un peu lui d'ailleurs qui a donné la mode de Fontaine de Vaucluse. Alors, il écrit à Guillaume de Pastringo, donc je vous donne juste un extrait. Ouais. Rappelez-vous ce champ couvert de pierres que vous avez bien voulu m'aider à défricher. Vous y verriez à présent un jardin émaillé de fleurs. Il est borné d'un côté par la sorgue, de l'autre par des rochers fort élevés, exposés au couchant, qui y répandent l'ombre dans le haut du jour. Une muraille le renferme et en défend l'entrée du côté du midi. Les oiseaux vont faire leur nid sur ces rochers, les uns tapissent de mousse, les autres de feuilles d'arbres. C'est un spectacle charmant de voir ces petits animaux, etc. Et un peu plus loin, pendant que je me promène dans les prés et sur les bords de la Sorgue, que j'examine des arbres que j'ai greffés moi-même et des lauriers que j'ai fait venir des pays étrangers, je vois sortir de tous côtés l'image de mon cher Guillaume, ce tertre où nous nous sommes assis, ce gazon où nous nous sommes couchés, ce rivage où nous avons fait des ricochets sur l'onde qui coulait à nos pieds, tout vient le retracer à mes yeux. C'est ici où nous avons pris plaisir à rappeler les muses d'un long exil, à comparer les poètes grecs et latins. C'est là que, nous livrant aux douceurs d'une conversation libre et sans contrainte, etc., nous aurions oublié le souper.
Et pourquoi vous intéresse ce texte ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, on voit bien ici qu'il y a concrètement, il fabrique un jardin d'un lieu, il le dit, d'un champ de pierre.
Pierre, ouais.
Donc il y a une, il y a une modification d'un terrain sur le bord de la Sorgue. Deuxièmement, on voit bien que ce jardin est fermé, est clos, puisqu'il le dit lui-même. D'un côté, il y a des rochers fort élevés, et de l'autre, il y a une muraille. Donc, il fabrique un jardin clos. Par ailleurs, il intègre des fleurs, et il fait venir des arbres, des lauriers, et il greffe des arbres lui-même. Alors, lui-même ou son jardinier, ça, on ne peut pas le savoir. Mais là, il y a une description de ce que l'on pouvait faire effectivement au XIVe siècle et de l'idée qu'on pouvait avoir de leur jardin.
Et puis la projection après, la projection de son amitié, des lieux parcourus avec l'ami, etc.
Voilà, alors en plus, il faut rajouter le niveau du préhumanisme, puisque Pétrarque a introduit, enfin l'un des grands introducteurs de retrouver les Grecs et les Latins. Donc, il se promène dans son jardin comme les Antiques le faisaient.
C'est ça,
et donc là, il y a une utilisation du jardin pour discuter et pour réfléchir sur la littérature, puisqu'il parle des poètes,
bien essentiellement. Bien sûr. Anna Limon-Verdillon, vous avez choisi un autre texte. Alors,
moi, j'ai choisi un tout petit bout, un tout petit extrait de La Fontaine.
Ouais.
La Fontaine qui est dans la cour de Louis XIV et qui voit toutes les grandes réalisations de Lenôtre et qui voit cette artificialité des jardins de manière très flagrante. Et il dit... Heureux ceux qui, de l'art à ses traits inventés, on ne connaissait point autrefois ses beautés. Tout parc était verger du temps de nos ancêtres, tout verger sont faits parc. Le savoir de ses maîtres change en jardins royaux ceux de simples bourgeois, comme en jardin des dieux, il change ceux des rois. Et donc il y a cette démonstration en quelques vers de ces jardins complètement artificialisés pour... créer un paradis pour les...
Mais est-ce que, dans le propos de La Fontaine, ce qui est intéressant, parce qu'on rejoint des choses que vous avez dites au début et qu'on a très vite éludées, mais sur lesquelles il faut revenir, est-ce que ce n'est pas une critique du passage du jardin comme recherche d'un lieu paradisiaque, hein, parce qu'il y a quand même ça dans la projection du jardin, le jardin d'origine, le paradis, au jardin comme lieu où se montre un pouvoir?
Oh ben, clairement, à la cour de Louis XIV, mais on ne va pas refaire toute l'histoire, il y a effectivement une critique. Ça, c'est une évidence, puisqu'on connaît cette notion de pouvoir central, le fait de maîtriser. Louis XIV était tout sauf quelqu'un de fantasque. Et voilà, il avait cette volonté de maîtrise et du territoire et des personnes. Donc, de la part de La Fontaine, c'était forcément une critique. Et tous les commentateurs du temps ont, à un moment ou à un autre, fait ces critiques. Racine y a laissé sa vie. Hein, donc, voilà.
Et qu'est-ce que dit un jardin, par exemple, le jardin que là vous êtes en train de fouiller, que vous avez fini de fouiller, mais que vous analysez en ce moment du Palais des Papes, qu'est-ce qu'il dit des gens qui étaient là, qu'est-ce qu'il dit, en quoi il peut servir l'historien? Parce que bon, voilà, vous nous avez dit, c'est un jardin, vous visez la restauration, etc. Enfin, il y a aussi l'information, le savoir sur une époque. Qu'est-ce qu'il dit de la manière dont les gens vivaient, je ne sais pas, de leur temporalité, des moments de leur journée, de leur sociabilité. En quoi un jardin informe de ça aussi ?
Il informe par le fait qu'il soit associé, sans doute. Alors, on a encore un peu du mal, si je rebondis sur la question, sur la question de l'intimité de ce jardin-là. Parce qu'effectivement, d'abord, il y a plusieurs jardins. Il n'y a pas un seul jardin. Il y a le jardin du pape très privé, qui est autour de la fontaine du Griffon, qui est sans doute un jardin lié à l'eau. Le pape venait se baigner, il y avait des étuves, il y avait une galerie, et là, on peut penser qu'il était tout seul. Donc ça nous renseigne déjà sur la santé des papes. On avait quand même quelques données déjà là-dessus. Mais ça nous confirme sur le fait de ce besoin d'intimité. Ça nous renseigne aussi sur l'introduction des styles, parce que dans ce jardin du Griffon, eh bien, on a les premières loggias, qu'on va retrouver beaucoup plus tardivement en France après, cette première ouverture sur un paysage, même minimaliste. Ça nous pose aussi des questions sur la symbolique. C'est un jardin qui est très fermé, très 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 refermé, et où en définitive, la seule vision ouverte que l'on ait, c'est celle du ciel. Donc, un rapport aussi à l'inscription céleste, peut-être, du pape. Ça, c'est une question qui est peut-être plus de l'ordre symbolique et religieuse. Et puis, on passe dans le jardin de Clément VI à une vision sans doute plus utilitaire, avec la tour des cuisines.
La tour des cuisines,
c'est une partie du jardin des papes qui est plutôt dans cette partie-là du jardin. Et on peut penser que c'était quand même plus pratique de créer un bout de potager à côté du jardin. Par contre, on sait très bien que ce jardin est très petit et qu'il ne peut pas assurer l'ensemble de la vie du pape. Lorsqu'on regarde les banquets de réception des empereurs ou des choses comme ça, on a une quantité phénoménale de nourriture dépensée.
Alors, c'est très intéressant. Donc, à quoi servait ce petit endroit, ce petit potager,
Alors, déjà, il y a,
ce
y a
petit
une chose
lieu où il y avait quand même de la nourriture alimentaire, ouais. alors qu'il fallait nourrir des centaines de personnes. Alors pourquoi là, enfin, c'est quoi, c'était les herbes de dernière préparation. Il faut un peu de, je sais pas, il faut un peu de thym. Alors on va juste descendre là.
Alors il y a peut-être ce côté-là sur certains aspects. Il y a aussi le fait, il faut pas, on peut avoir dans un jardin aussi bien des plantes ornementales que des plantes utilitaires. Et ça, nous, c'est nous qui au 19e avons cassé le truc en disant un potager, c'est un potager, pas de fleurs. Si, on peut mettre des fleurs dans un potager, et si ces fleurs sont un peu extraordinaires, elles sont... Voilà. C'est aussi la part de nature, imaginez-vous, Avignon, c'est une ville qui est fermée, qui est close, il y a assez peu de jardins. Mmh. Le pape a quoi dans sa vision de la nature ? Monter sur les tours et prendre le Mistral comme
face.
Ça, en pleine face. Mais c'est très impressionnant, ouais. quand on est là-haut, un jour de Mistral, c'est quelque chose qui est une force de la nature qui est vraiment à prendre en compte. Mais c'est aussi ce petit bout de nature dans lequel il peut se ressourcer et qui peut... Ponctuellement, il l'a fait après, à partir du 15e siècle. C'est un jardin qui, effectivement, va récupérer une notion utilitaire beaucoup plus grande. Sur le 14e, c'est sans doute une part de nature. Il y a un pavillon de verdure dans le verger d'Urbain V. Ouais. C'est quelque chose où il va pour se reposer.
Alors, dans le jardin, il y a aussi une symbolique érotique. Je vais vous lire un petit extrait. C'est Zola. La curée, c'est une serre. Alors, c'est un jardin dans une serre, un serre tropicale. Celle de Saccard, dans son hôtel particulier du Parc Monceau. Et s'y trouve René, qui vient de regarder passer son beau-fils, accompagné de celle qui va devenir sa nouvelle épouse. Elle les regarde. Elle les regarde et voilà. Un amour immense. Un besoin de volupté flottait dans cette nef close où bouillait la sève ardente des tropiques. La jeune femme était prise dans ces noces puissantes de la terre qui engendraient autour d'elle ces verdures noires, ces tiges colossales. Et les couches âcres de cette mer de feu, cet épanouissement de forêt, ce tas de végétation toute brûlante des entrailles qui les nourrissait, lui jetait des effluves troublants, chargés d'ivresse. À ses pieds, le bassin, la masse d'eau chaude, épaissie par les sucs des racines flottantes, fumait. Mettait à ses épaules un manteau de vapeur lourde, une buée qui lui chauffait la peau comme l'attouchement d'une main moite de volupté. Sur sa tête, elle sentait le jet des palmiers, les hauts feuillages secouant leur arôme, et plus que l'étouffement chaud de l'air, plus que les clartés vives, plus que les fleurs larges éclatantes, pareilles à des visages riants ou grimaçants entre les feuilles, c'était surtout les odeurs qui la brisaient. Un parfum indéfinissable, fort, excitant, traînait, fait de mille parfums, sueurs humaines, haleines de femmes, senteurs de chevelure, et des souffles doux et fades jusqu'à l'évanouissement étaient coupés par des souffles pestilentiels, rudes, chargés de poison. Et dans cette musique étrange des odeurs, la phrase mélodique qui revenait toujours, dominant, étouffant les tendresses de la vanille et les acuités des orchidées, c'était cette odeur humaine, pénétrante, sensuelle, cette odeur d'amour qui s'échappe le matin de la chambre close de deux jeunes époux. L'érotique du jardin.
Au jardin des papes ?
Ah, j'en sais rien. Bon, les papes, c'était pas non plus les plus prudes à cette époque-là.
On va peut-être se détacher du jardin des papes.
Oui, hein, alors l'érotique du jardin, quand même. Est-ce que c'est, quand est-ce que ça apparaît ? Qu'est-ce qu'on en dit ? Bon, évidemment, vous avez cité Pétrarque, l'or, le laurier. Enfin, on connaît tout ça. Il y a une érotique très forte. Les jardins qui passent par quoi ?
Je ne sais pas. Là, le texte de Zola exprime bien. On est dans une serre tropicale, exotique. Mm-hmm. Et donc, je pense que c'est relié à l'exotisme, aux plantes exotiques. Et que là, l'érotisme vient du fait que les plantes sont d'ailleurs, viennent d'ailleurs, et dans un lieu clos, puisqu'on est dans une serre. Et puis, bon, c'est du Zola, donc...
Donc, il y a pas d'autre... Enfin, c'est le moyen qu'il utilise assez souvent, effectivement, pour dire des choses qu'il ne peut pas dire par ailleurs.
Oui. Donc je ne pense pas qu'après l'érotisme, oui, au XVIIIe siècle, de toutes les façons, on sait pertinemment dans un certain nombre de jardins que, de toute façon, tous les jardins, à partir du moment où il y a des bosquets, etc., ils servent à tout, on le sait. On a les textes aussi qui le disent.
Pas dans le jardin des papes, alors.
À Versailles, aux Tuileries.
À Versailles,
évidemment.
Mais oui, c'était ouvert au public.
En fait, Versailles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'impression que le nôtre a fait monter ça d'un coup, mais pas du tout. Il a tranché dans une forêt. Et un des moyens pour... quand on tranche dans une forêt, on se retrouve face à quoi ? À des grands troncs comme ça qui sont partis très haut. C'est pas très esthétique. Donc le nôtre met des palissades sur les côtés, des palissades vertes, et sur lesquelles il fait courir la végétation qui va pousser un peu plus vite, des lierres, des plantes grimpantes. Donc de fait, on est dissimulé, on est caché. On sait, dans le jardin des Tuileries, on a fait une intervention il n'y a pas tellement longtemps sur la promenade aux Tuileries. La promenade aux Tuileries, c'est une promenade qui est érotique, qui est, on se rencontre aux Tuileries, on va dans les bosquets. Et aujourd'hui encore, le jardin de Wirth, c'est uniquement ça, cette part-là. C'est un jardin qu'on ne voit que du ciel le jour de l'arrivée du Tour de France et pour le 14 juillet. Et autrement, il est réservé à l'intime.
Mais c'est accidentel ou c'est dans la construction même du jardin qu'on construit des espaces comme ça, qui sont des espaces de
recueillement? Je pense qu'il y a volontairement des...
Les espaces clos, c'est l'intimité. Maintenant, à quoi sert l'intimité?
Ça c'est vrai.
Voilà, mais on a par exemple dans les jardins provençaux, les pavillons de fraîcheur avec les radas, qui a donné le nom de radas, qui sont ces grands canapés sur lesquels on s'étale à plusieurs. Bon, voilà, je ne vous fais pas de dessin après.
Alors, pour terminer cette émission, je vais vous demander de vous livrer un petit questionnaire autour de la question du texte. Alors, un texte sans cesse relu. Anne Verdillon.
Oh, bah, Olivier de Serres, parce que c'est le fondateur.
Sans cesse relu, difficile.
Il n'y a pas des textes que vous connaissez par cœur, l'une et l'autre.
Je connaissais essentiellement des poèmes. J'ai un peu la mémoire qui oublie ce type de... Oui, voilà, exactement.
Par cœur, non, parce que trop d'informations. Pour le coup, notre métier étant en permanence dans l'écriture, j'aimerais pouvoir revenir à chaque fois. C'est pas toujours possible.
Et l'une et l'autre, un jardin où vous pourriez passer une année, une vie presque. Aucun ou
non, difficile, parce qu'en fait, se greffe le côté technique. Il y a à la fois le professionnel et l'intime.
Ah bah oui, mais c'est donc les deux, c'est un registre intermédiaire.
On va dire la bâtie d'Urfé et les Tuileries.
Ah oui.
Ouais.
Pourquoi ?
La bâtie d'Urfé pour la part intime, et puis surtout parce qu'à chaque fois, en fait, au-delà du jardin, on tombe sur l'homme et la création. Et le nôtre est quelqu'un de très attachant. Les Tuileries, le personnage est vraiment très, très attachant. Et la bâtie d'Urfé, parce que le personnage est très différent. Claude d'Urfé, c'est quelqu'un de curieux, assez froid, assez austère, mais très intéressant aussi. Donc plus par rapport au personnage, en lien avec l'intimité du personnage.
Marianne Mordillet.
Je serais d'accord pour la bâtie d'Urfé. En revanche, je n'aime pas trop les Tuileries.
Je préfère le Luxembourg.
Le côté géométrique, je suis moins attachée. Et justement, là, c'est des attaches personnelles. Ouais. Je préfère les jardins qui donnent des surprises.
Et un jardin dans lequel l'une ou l'autre, vous vous êtes sentie mal à l'aise?
Ah, Méréville.
Méréville, pourquoi?
Méréville, parce que c'est un jardin qui a été entièrement modifié sur 30 hectares. Ce dont je vous parlais tout à l'heure pour Valérie, c'est le même principe. Mais là, c'est 30 hectares. Et c'est un jardin qui a été, où la nature est vraiment forcée. On peut être admiratif de ça. Mais où il y a eu des drames successifs. Et ces drames continuent. Et on sent que ce terrain, quelque part, renacle.
Ah, mais il renacle à quoi?
Il renacle à la présence, à se donner, à continuer. Ouais, on sent que la nature a du mal à se faire à ce que l'homme lui a imposé.
Marianne Mordillet.
Je n'en ai pas idée comme ça. Je reconnais que j'aime bien les jardins. Il y en a qui m'attirent plus.
Ouais. Mais il n'y a pas de jardin. Vous n'avez pas d'idée de jardin comme ça dans lequel vous soyez entré et vous vous senti mal à l'aise parce qu'il était passé, parce qu'il dégageait?
Non, je ne crois pas.
D'accord. Comment est rangée votre bibliothèque?
Par thématique.
Les jardins occupent une grande place?
Oh bah. C'est une question. 95%, on va dire. Non, allez, 90%.
Moins pour moi, puisque je ne suis pas spécialiste comme Anne, j'accompagne Anne. Bon, la part archéologique est essentielle, de toutes les façons. Moins sur les jardins, thématiquement et alphabétiquement.
Ah oui, est-ce que vous écrivez encore à la main l'une et l'autre?
Forcément, les minutes de fouille sont entièrement faites à la main, et je trouve que c'est un esthétisme d'abord qui est intéressant parce qu'il nous relie vraiment au terrain.
C'est-à-dire?
Eh bien, moi, je pense que on peut faire les trucs informatiques, prendre des photos, retraiter les photos. Ça enlève la partie de sensualité, de la terre quand on l'a sous les doigts. Ça, c'est l'information est essentielle. Et la transmission, le fait de faire à la main, eh bien, ça permet de relier la terre à la science d'une certaine manière. On se rend compte que le geste n'est pas bon quand il y a des moments le et avec l'informatique, on a moins cette subtilité-là.
C'est d'accord. Oui.
J'ajouterais aussi que le fait d'écrire à la main permet une autre réflexion.
Ah bon ?
Sur ce qu'on est en train d'écrire. Et oui, parce que justement, il y a un côté physique, tactile et physique.
Ça veut dire qu'écrire à la main des minutes.
Parce qu'on a été habitué à ça.
Est-ce que c'est parce que vous posez aussi votre carnet sur, par exemple, un morceau de pierre un peu brinque-ballant et que du coup il reste des traces du lieu dans lequel vous étiez.
La minute, ce qu'on appelle la minute de chantier, est importante. On la conserve. Hein. C'est vraiment d'abord. Moi, je ne multiplie pas les cahiers, les choses. Il y a une feuille par stratigraphie, on va dire, et toute la mémoire, les petits dessins, ce qui nous passe par la tête, tout est mis dessus. C'est vraiment une volonté d'enregistrement et qui est assez esthétique en définitive.
Un texte dont vous repoussez toujours la lecture à plus tard.
Oh, Proust, beaucoup.
Ah, Proust, c'est dingue, Proust revient tout le temps. C'est fou, hein, la place de Proust dans l'imaginaire.
Je pense énormément, oui. C'est...
Et un texte que vous avez honte de ne pas avoir lu.
Aucune honte. Qu'il y a la potentialité de lire plus tard.
Ah, ok.
Bon, oui, ça, il y a une recherche permanente. Et puis, si ce n'est peut-être l'entièreté du texte, on l'aborde par des petits morceaux. Alors,
et juste pour terminer, le grand texte sur les jardins qu'il faudrait que nous lisions, nous qui ne lisons pas forcément de texte sur les jardins.
Girardin, 18e siècle, 1777.
J'en resterai à ça, oui.
Girardin, si. Bon.
Je crois que le 18e, de toute façon, est fondamental.
Merci à tous les deux. Alors chaque jour nous ouvrons une fenêtre à la lutte que mènent ici à Avignon et dans le reste de la France les intermittents, précaires, intérimaires et chômeurs. Chaque jour un texte, un titre aujourd'hui, les surnuméraires.
Notre société se comporte comme s'il y avait des humains en trop, des surnuméraires. Nous, les surnuméraires en lutte, nous nous adressons aux autres surnuméraires, ceux qui le sont déjà ou ceux qui sont en voie de le devenir. Nous vous parlons. Nous sommes peut-être votre miroir. Parmi nous, bien sûr, il y a des différences. Nous sommes nombreux. Il y a des contradictions, des désaccords. On voudrait nous opposer, peut-être même nous opposer à vous, les autres surnuméraires. Aujourd'hui, nous sommes tous face à un choix de société. Non pas face à un choix abstrait, lointain, mais face à un choix qui implique la façon dont nous allons continuer à vivre très concrètement. Nous ne parlons pas de société idéale ou de modèle politique à suivre, mais de formes concrètes de vie, dans le seul monde possible qui est celui-ci. Nous ne voulons pas que la vie ait comme sens unique celui de l'utilitarisme, celui où tout sert à quelque chose, où il y a toujours un but, une fonction préétablie, où il ne reste plus de temps pour réfléchir, pour questionner. Nous sombrons alors dans la société de l'urgence, de toutes les urgences. Et l'urgence est la meilleure façon de discipliner les gens. Nous sommes d'accord, disent les maîtres, bien sûr, mais plus tard, plus tard. C'est plus tard pour la vie, c'est plus tard pour la dignité, c'est toujours plus tard pour la solidarité. Les maîtres ne se trompent pas. Notre choix de vie implique un choix de société. Celle qui ne veut pas seulement éduquer utile, penser utile, armer les enfants pour l'avenir, gérer efficace, aller vite, produire plus. Une société où la pensée, la poésie, la philosophie, la rêverie ne sont pas considérées comme hors programme. Où la notion de gratuité du temps, de l'échange, sont à nouveau une évidence. Nous sommes ceux qui rappelons une chose très simple à la société. Nous ne savons pas pourquoi nous nous levons le matin, pourquoi nous aimons, pourquoi nous vivons. Attention, ils nous désignent comme des surnuméraires. Et pour beaucoup de gens, tomber sous cette désignation-là revient aujourd'hui à une condamnation grave. Chômage, arrêt de soins, fin de droit, expulsion, isolement, mort. Alors, plutôt que d'essayer de nier, nous disons « oui ». Nous sommes des surnuméraires, mais seulement dans votre modèle de société. Et même si votre modèle est aujourd'hui dominant, la vie, elle, continue à travers la création, la solidarité, la pensée, la résistance. Parce que le trop fait encore partie de ce monde. Texte anonyme. Rendez-vous ce soir, place du Palais des Papes, à partir de 19h30 pour un bal sauvage.
Merci beaucoup à toutes les deux, Anne Aliment-Verdillon et Marianne Morvillet. Je rappelle que vous avez mené les fouilles, entre autres, hein, enfin, c'est la dernière chose, vous avez mené les fouilles du jardin qui est sous le mur oriental, du Palais des Papes à votre place. Demain, on parlera du texte en temps de révolution avec l'écrivain ukrainien Andrei Kourkov. C'était Des idées sous les platanes, une émission préparée par Geneviève Méric. À la technique aujourd'hui, Georges Thau, Manon Houssin, Tahar Bouklifa et Jean-François Georges, chargé de production, Jean-Christophe Perrin. Réalisation, Véronique Lamandou.